Je bénis ton nom pour ta fidélité. Merci. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour les cœurs que tu as préparés. Je prie que tu accordes à chacun d'entre nous, là où nous sommes, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre homme intérieur, afin que nous sachions quelle espérance attache à notre appel et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, ce que tu as déployé en Christ Jésus, le ressuscitant d'entre les morts, le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes. Merci parce que tu nous donnes de comprendre quelle était la profondeur de cette œuvre que tu as accomplie par la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. Que ton nom soit glorifié. Merci parce que nous avons une alliance avec toi, laquelle alliance a été, Seigneur, est scellée par le sang de Jésus versant la croix du calvaire. Et ce soir, tu nous donnes de comprendre, Éternel, les profondeurs de cette alliance et de jouir de tous les bénéfices de cette alliance afin que ton nom soit béni et exalté. Merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour le Saint-Esprit, merci pour la révélation dans les cœurs. Au nom de Jésus, j'ai prié que chacun dise là où il est. Amen, amen. Alléluia. Ce jour, là où vous êtes, nous suivons l'enseignement sur l'alliance de sang. L'alliance de sang. L'alliance de sang. Je commence par définir ce que c'est qu'une alliance. Si nous allons parler d'une alliance de sang, il est important de comprendre ce que c'est qu'une alliance. Alors, l'alliance, c'est un pacte ou un contrat conclu avec des engagements réciproques. J'ai dit que je suis dans une alliance parce que je suis dans un contrat, vous voyez, ou dans un pacte que j'ai conclu avec quelqu'un. Et où, n'est-ce pas, dans ce pacte, nous avons des engagements réciproques. Je prends l'exemple, n'est-ce pas, du contrat de bail, parce qu'un contrat est une alliance. Quand j'ai ma maison et que je veux mettre en location, celui qui vient prendre ma maison signe un contrat avec moi. Et ce contrat donne l'obligation à celui qui vient occuper ma maison de me payer un bail. Et moi aussi, j'ai l'engagement de laisser la personne jouir de ma maison, n'est-ce pas, pendant une certaine période de temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, nous disons que là, nous avons une alliance, n'est-ce pas, de bail ou un contrat de bail. Donc, vous allez souvent, à la place du mot alliance, voir le mot contrat, ou alors à la place du mot contrat, simplement voir, n'est-ce pas, le mot pacte. Il ne faut pas avoir peur de ces mots. Ça veut simplement dire l'alliance. Donc, il existe plusieurs types d'alliances. Les alliances, il en existe plusieurs. Il existe plusieurs types de contrats, comme on a vu avec le contrat de bail, ou alors le contrat d'électricité quand vous allez à la CIE. Vous prenez un contrat d'électricité, un contrat avec la SODECI ou alors les divers types de contrats que vous connaissez. Donc, il existe plusieurs types d'alliances ou plusieurs types de contrats. Mais ce soir ou alors aujourd'hui, nous allons simplement parler, n'est-ce pas, du contrat fait avec le sang ou alors de l'alliance de sang. L'alliance de sang, l'alliance que nous avons avec Dieu au travers du sang de Jésus. Maintenant, de toutes les alliances ou de tous les contrats qui existent, c'est le contrat qui est le plus fort ou l'alliance qui est la plus forte est celle qui est scellée par le sang, n'est-ce pas? C'est l'alliance qui est scellée par le sang qui est l'alliance la plus forte. Écoutez-moi attentivement, vous savez, on peut sceller un contrat ou sceller une alliance avec de l'argent. On peut sceller un contrat ou sceller une alliance avec une autre chose, même avec une voiture, avec un autre bien. Mais si un contrat est scellé avec du sang, alors ce contrat est le contrat le plus important, simplement parce que ce contrat représente la vie. Vous savez, le sang dans la Bible signifie la vie. Quand on parle du sang, on parle de vie. Celui qui répand le sang a répandu la vie. Donc, si nous parlons d'une alliance scellée avec du sang, c'est simplement parler d'une alliance qui a été scellée avec la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, suivez attentivement ce que je suis en train de dire. Vous voyez, l'alliance de sang est importante aussi parce que c'est un pacte ou une alliance illimitée. Ça veut dire que c'est une alliance qu'on ne devra pas interrompre. Une alliance illimitée. Une alliance qu'on ne devra pas interrompre. Une alliance qui nous permet, n'est-ce pas, de jouir des passifs et des actifs des deux parties qui font alliance. Je reprends. Si je fais alliance de sang avec vous, ou l'alliance de sang avec Dieu, tout ce qui est à Dieu est à moi. Et toutes mes dettes, Dieu les prend, et tout ce que Dieu a, Dieu me les donne. Si je parle la même chose dans l'alliance du mariage, tout ce qui est à la femme est à l'homme, et tout ce qui est à l'homme est à la femme. Parce que cette alliance aussi est scellée avec du sang. C'est une alliance qu'on ne devra pas interrompre. Ok? Ça veut dire que Dieu est un Dieu qui ne cautionne pas le divorce. C'est un Dieu qui est contre le fait d'interrompre l'alliance. Dieu est contre ça. L'alliance ne devra pas être interrompue. Et celui qui interrompt une alliance scellée par du sang s'expose à la destruction de Dieu. Et s'expose à la malédiction simplement parce que cette personne est allée contre un contrat qui ne devra pas être interrompu. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, vous voyez, personne ne devra rompre cette alliance. Sinon, on s'expose à la malédiction. Mais je vais dire une chose. Il faudra que vous compreniez une chose. Un chrétien peut être maudit, ok? Un chrétien peut être maudit par les actes qu'il pose. Par la désobéissance, on s'expose à la malédiction. Celui qui est désobéissant à la voix de Dieu s'expose à la malédiction. C'est différent d'un mauvais sort. En tant que chrétien, aucun féticheur, aucun marabout, aucun sorcier ne peut vous jeter un mauvais sort qui soit efficace, qui puisse vous atteindre. Mais si maintenant, vous posez un acte qui soit contraire à la parole, vous vous exposez à la malédiction qui viendra cette fois de votre désobéissance vis-à-vis de votre alliance. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Et touche celui qui est à côté de toi, dit, est-ce que tu as bien compris? Vous voyez, c'est tellement important que dans les générations antérieures, je ne sais pas si ça continue de se pratiquer aujourd'hui, mais à l'époque où nous étions plus jeunes, c'est-à-dire 15, 16, 17 ans, il y avait des types d'alliances que les jeunes s'amusaient à faire. Un jeune homme sort avec une jeune fille, et puis les deux prennent leur sang, ils coupent le sang, ils s'entaillent la pomme, ils prennent le sang, ils mettent dans un verre. Et donc, ils mélangent ce sang avec du vin, et ils le boivent. Et ils se jurent eux-mêmes, si quelqu'un d'entre nous trahit l'autre, la personne meurt, ou la personne devient folle. Moi, je connais des camarades de jeunesse qui sont morts pour avoir essayé de faire ce type de choses et de violer, n'est-ce pas, l'alliance qu'ils avaient bâtie. Et même la même chose, aujourd'hui, on le constate avec les gens qui font des affaires, les mafios, les gens qui font des affaires, même les bandits que vous voyez dans les rues, les brigands. C'est pour ça que souvent, quand on arrête un malfaiteur, quand on arrête un braqueur, il refuse de donner le nom de celui qui était avec lui, parce qu'il a fait une alliance basée sur le sang, qu'ils ont coupé, ils ont bu leur sang ensemble, et ils se sont promis qu'au cas où on arrêtait un, et que l'autre parle, il meurt. Et c'est comme ça qu'on voit des gens qui meurent en prison après leur arrestation, simplement parce qu'ils ont donné un nom qu'ils ne devraient pas donner. Est-ce que vous me comprenez? Donc vous savez, ces choses sont extrêmement vraies. Elles sont extrêmement vraies. Malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont ignorantes, n'est-ce pas, de la réalité de l'alliance du sang que nous avons avec le Seigneur Jésus. Alors, qui croit que ce thème est extrêmement important? Oh, que le Seigneur nous bénisse! Et que sa présence soit là pour nous amener à comprendre la profondeur de la véracité de cette parole. Je voudrais maintenant, avant d'avancer, parler de l'origine de l'alliance de sang. Son origine. Si cette alliance est aussi importante que ça, d'où est-ce qu'elle puise son origine? Elle vient d'où? Qui a été le premier initiateur de l'alliance de sang? Est-ce le diable qui l'a initié? Est-ce Dieu qui l'a initié? Qui, au commencement, a commencé avec l'alliance de sang? Genèse 3, verset 21. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Maintenant, saisissez la révélation. Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. En Genèse 1, verset 26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu bénit l'homme. Il bénit l'homme après l'avoir créé. Et il lui accorde maintenant le mandat de domination sur la terre. Mais quelque chose va se passer. Cet homme qui avait été créé pour dominer sur la terre va maintenant, n'est-ce pas, désobéir à l'ordre de Dieu parce que Dieu va lui dire, pour que ta domination soit réelle, pour que ton pouvoir soit manifeste, pour que tu jouisses de mes promesses et que tu jouisses de ma faveur, que tu entres en possession de tout ce que j'ai pour toi et que tu continues de gouverner la terre et que ma gloire continue d'être visible au travers de ta vie, je t'ordonne de cultiver ce sol, de manger de tous les arbres, du fruit des jardins. Mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu donne à l'homme le jour où tu en mangeras, tu mourras. En quelque sorte, le jour où tu vas violer, n'est-ce pas, ma loi, tu vas t'exposer à une malédiction qui s'appelle la mort. et ne pourra être inévitable simplement parce que tu auras choisi de désobéir. Et la Bible dit que le serpent était un des animaux, ou bien l'animal le plus rusé d'entre les animaux des champs. Il est venu, n'est-ce pas, vers la femme. Je ne sais pas où se trouvait l'homme en ce moment précis. Il est important, Marie, de ne pas souvent trop laisser vos femmes seules quand vous n'êtes pas là. Ou alors d'avoir des deals, ok, dans votre dos sans que vous ne en soyez informés. Je parle aux femmes maintenant. Donc le serpent est venu vers la femme. Je ne sais pas où, là, où le mari était. Et donc le serpent dit à la femme, est-ce que Dieu a effectivement dit que vous ne mangerez, vous ne devez pas manger du fruit de cet arbre? La femme dit, hé, serpent, Dieu n'a pas simplement dit, mais il a aussi dit de ne même pas toucher de cet arbre, car le jour où nous allons toucher, nous allons mourir. Le serpent dit, ah non, toi tu rigoles, Satan, Dieu, il vous blague. Il sait que le jour que vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Maintenant, je vous pose une question. La femme était comme qui? Elle avait été créée à quelle image? Et à quelle ressemblance? Elle était déjà Dieu. Mais le diable est simplement venu lui proposer ce qu'elle était pour lui ôter ce qu'elle avait. C'est simple. Vous comprenez? Elle était déjà comme Dieu. Il dit, le jour où tu mangeras, tu seras comme Dieu. Et donc, la Bible dit, la femme vit, et non Dieu vit, la femme vit, que l'arbre était agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Je ne sais pas qui lui a dit que c'était précieux si c'était le menteur de Satan. Elle prit de ce fruit, et non le diable prit de ce fruit, et non les démons prit de ce fruit. Elle prit elle-même le fruit, et elle en mangea. Et donc, dans quelle affaire ils ont mangé le fruit, la Bible dit, elle donna aussi à son mari, et son mari en mangea après. Donc, alors moi, je dis une chose claire. Donc, cessons d'accuser la femme comme étant l'instrument de la chute. Imaginez un seul moment que l'homme refusa, en ce moment précis, de manger de ce fruit. Qu'est-ce qui allait se passer? J'imagine que si l'homme avait refusé, la première femme allait être punie, elle allait être éradiquée de la terre, elle allait mourir, et Dieu allait recommencer son opération, il allait faire retomber l'homme par terre, il allait aller encore dans sa côte, il allait chercher une autre femme, il allait présenter devant lui. My goodness! Yes! Hallelujah! Parce que l'homme avait plusieurs autres côtes. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, c'est une responsabilité qui est totalement partagée. Parce que l'homme est allé de commun accord avec la femme, il a mangé de ce fruit. Suivez attentivement, quand l'homme n'avait pas mangé le fruit, Dieu n'avait rien dit. Dieu n'avait rien dit, il n'avait pas parlé, et il était calme. Il s'est tué, il dit, c'est pas un problème. Il n'avait rien dit, il s'est tué. Quand l'homme a mangé aussitôt, waouh, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait, n'est-ce pas? Et il est là comme une brise dans le soir, dans le jardin, et il dit à l'homme, où es-tu? Où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas où l'homme était? Il savait parfaitement où l'homme était. Mais en fait, il voulait amener l'homme à réaliser où il était effectivement. Où es-tu? Dieu omniscient, il savait. Mais il dit, montre-moi où tu es. Maintenant que tu as choisi de me désobéir, montre-moi ta position. Est-ce que tu domines toujours sur Satan? Est-ce que tu es toujours le plus fort? N'est-ce pas Satan te domine? N'est-ce pas il est devenu le Dieu, n'est-ce pas, du monde? Où es-tu maintenant? Parle encore. Oh my God. Est-ce que vous comprenez? Et là maintenant, l'homme réalise. Il dit, Dieu, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Je me suis caché parce que je suis nu. Tu lui dis, mais fils, qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé de mon fruit? Le fruit, j'ai défendu de manger. Il dit, non, ce n'est pas moi, oh, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Oh my God. Et la femme que tu as mise à côté de moi, il a oublié de dire, pour laquelle j'ai dit, waouh, enfin! Parce qu'en fait, la femme n'était que la réponse d'un désir profond que l'homme avait dans son cœur. Est-ce que vous me comprenez? Donc en fait, il revient à Dieu pour accuser Dieu. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, oh femme, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est le serpent. C'est le serpent dans le jardin. Combien de personnes parmi nous fuyons nos responsabilités? Un véritable chrétien est celui qui accepte les erreurs qu'il a commises. Ce n'est pas un problème d'avoir un problème. C'est un problème d'avoir un problème et de ne pas reconnaître que le problème qu'on a est un problème. C'est ça le vrai problème. Quand tu as un problème, reconnais que tu as un problème et va vers Dieu, avoue-le, et Dieu est encore capable de te restaurer. C'est pas la peine de jouer au cache-cache avec celui qui t'a créé, celui qui t'a conçu avant même que ta mère ne te connaissait. Avant que ton arrière-grand-père et ton arrière-grand-mère ne décident de se fiancer, Dieu savait que par cette alliance, tu naîtras. Ce n'est pas avec lui que tu vas jouer au cache-cache. Parce que rien ne lui est caché. Il dit qu'il est capable de voir la fourmi noire dans le noir posée sur un rocher noir. Donc il n'y a pas de raison de vouloir cacher quelque chose à Dieu. Il est omniscient, c'est tout. Donc, il rejette la responsabilité à la femme. La femme rejette, n'est-ce pas, au serpent. Et Dieu va par la suite, n'est-ce pas, accorder des sanctions à chacun d'entre eux. Le serpent va ramper, la femme, tu accoucheras, n'est-ce pas, avec douleur. Il augmente les douleurs de sa grossesse. Ok, donc, en fait, ça veut dire que des femmes, quand on souffre trop à l'accouchement, quelque part, c'est pas un acte de foi, si on est né de nouveau, Dieu peut alléger, n'est-ce pas, la souffrance de nos grossesses. Si la souffrance est venue du fait que nous avions commis un péché et que nous avons été rachetés, donc maintenant, une femme peut croire, n'est-ce pas, à un accouchement sans trop de difficultés, comme les femmes d'Israël, qui accouchaient vigoureusement, sans qu'il y ait intervention de césarienne. Oui, Dieu, c'est un Dieu de mystère. Alors, je continue simplement, je suis en train de parler des choses mystérieuses. La révélation. Alors, il se trouve quelque chose de formidable. Quand l'homme va désobéir à Dieu, l'homme avait été créé comme Dieu. L'homme était, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, il était. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous disons dans 2 Corinthiens 4, verset 4, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour celui dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur rein. Intelligence. Donc ça veut dire que quelque part, par la désobéissance de l'homme, le diable est devenu le Dieu de ce siècle. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, si je suis le chef de cette nation ou de mon quartier ou de ma maison, je peux céder mon autorité à quelqu'un d'autre. Nous avons vu Caïn qui a vendu son droit de naissance à Abel. Donc nous pouvons, n'est-ce pas, je peux céder mon autorité à quelqu'un d'autre. Je peux céder ma place par la désobéissance, n'est-ce pas? Le diable a pris la place que l'homme avait sur la terre. Et c'est pour ça que juste après, vous voyez, n'est-ce pas, la reine commence. Abel, Caïn tue son frère Abel. Et puis tout de suite, dans la Bible, on commence à voir le mal. Au point où Dieu a eu tellement mal de voir le mal sur la terre que dans Genèse 8, il a voulu détruire la terre avec tout ce qu'elle avait. Genèse 7. La Bible dit que Dieu a voulu détruire la terre, il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Il voulait détruire la terre. Mais voilà, donc c'est en ce moment, quand il a vu que l'homme avait perdu l'autorité qui était la sienne, Dieu a donc tué les vêtements, l'animal, il a fait la peau, il a fait de la peau des habits, il a couvert la nudité. Maintenant, suivez une révélation qui va vous émerveiller. Qui va vous émerveiller. Écoutez-moi très bien. Vous savez, souvent les gens doutent de l'amour de Dieu. Mais Dieu t'a aimé avant même que tu ne sois. Parce que, vous savez, le diable a existé avant l'homme. Et le diable a péché dans la montagne de Sion. Dieu l'a chassé de la montagne de Sion, Ézéchiel 28. Dieu l'a chassé de la montagne de Sion. Il l'a propulsé sur la terre. Et c'est pour ça que l'homme a été créé. Pour venir enseigner à Satan comment être obéissant. Donc, vous voyez, dont l'homme en péchant a trahi Dieu, a cédé l'autorité que Dieu lui avait donnée à son pire ennemi qui était le diable. Mais Dieu va démontrer qu'il y a une différence entre l'homme et Satan. Parce que quand Satan a péché, Dieu ne lui a pas donné l'opportunité de se repentir. Mais quand l'homme a péché, Dieu a tué un animal. Et quand il tue l'animal, qu'est-ce qui se verse? Donc Dieu a fait une alliance de sang avec l'homme dans le jardin d'Éden. Il a couvert la nudité. Maintenant, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. C'est-à-dire que l'homme, dans le jardin d'Éden, révélait déjà à Adam et Ève quelle était la profondeur de son amour. Il voulait lui dire, mon fils, je sais que tu es tombé dans les problèmes, mais je vais te dire quelque chose, je ne te laisserai pas là où tu es, je suis Dieu. Je vais tout faire pour te sortir de cette situation. Je vais faire une alliance avec toi, et je vais la bâtir dans le jardin d'Éden, au travers d'un animal que je vais égorger. Et cet animal va symboliser l'agneau de Dieu qui viendra des années plus tard, verser son sang à la croix du calvaire à Golgotha. Dans ce jour, quand l'animal est tué, je suis presque sûr que cet animal était un agneau que Dieu a tué dans le jardin, qui symbolisait l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, qui allait venir plus tard verser son sang pour que nos péchés soient effacés et pardonnés. Maintenant, suivez-moi bien. Quelles sont les raisons pour lesquelles on peut faire une alliance? Si on est simplement intelligent, on comprendra que la première raison d'une alliance, c'est l'amour. Parce que c'est par amour que Dieu a fait alliance avec l'homme dans le jardin d'Éden. Vrai ou faux? Vrai. Dieu a fait alliance avec l'homme par amour. Parce qu'il a aimé l'homme, il a fait alliance avec l'homme. Par la mort, n'est-ce pas, de cet animal qui lui-même il a sacrifié, et dont il fit des vêtements pour l'homme. Vous voyez, il faut faire très attention, ça je parle pour quelqu'un dans cette salle. Vous voyez, vous voulez bâtir une alliance avec un homme, avec une femme, faites attention. Il ne faudra jamais essayer de manipuler l'amour que la personne peut ressentir pour vous. N'allez jamais voir un féticheur pour essayer d'amener cet homme à vous aimer. Parce qu'en fait, ce sera une contrefaçon de l'amour. Cette personne ne sera que sous l'influence de puissances occultes et va être oppressée, manipulée, contrôlée pour vous donner un certain amour qui n'est pas le véritable. Vous devez apprendre à faire confiance en Dieu qui vous a créé. Dieu connaît que vous avez besoin de quelqu'un. Dieu connaît que vous avez besoin d'un partenaire parce qu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et laissez le soin à Dieu de déclencher dans le cœur de quelqu'un un véritable amour pour vous. Et cet amour véritable vous conduira sur le chemin du mariage. Et par amour, vous allez bâtir une alliance. Celle-là sera la véritable. Celle-là sera une alliance qui apportera dans votre vie une véritable bénédiction, une véritable visitation de la part de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Et je viens simplement vous dire, quel que soit l'âge que vous avez, si Dieu est amour et que Dieu vous a aimé avant que vous ne puissiez naître, oh my God, Dieu va répandre son amour dans le cœur de quelqu'un. Il va t'aimer comme il n'a jamais aimé. À chaque moment, il sera en train de t'appeler pour dire, chérie, tu es où? Comment tu vas? Parce que dans son cœur, il y a quelque chose qui bouillonne. Il y a un amour, my God. Yes! Alléluia! Parce que quand Dieu le fait, alors il le fait véritablement. Il le fait véritablement. Je vais vous dire, mes frères, je vous dis une vérité. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le mariage, mais en même temps en enfer sur terre. Oh, il y a beaucoup d'hommes qui sont mariés, mais qui ne sont pas épanouis. Simplement parce qu'au départ, il y a eu une manipulation de motifs. Les choses n'ont pas été mises à leur place. Il est important de laisser le soin à Dieu de faire ce qu'il veut faire. Parce que Dieu t'aime, il le fera. Il le fera certainement. Il ne faut pas essayer de forcer la main de Dieu. Il le fera parce qu'il t'aime. Et c'est tout, il va le faire. Maintenant, tu as le droit, tu as le désir. C'est normal. Il dit à tes résolutions, répondra le succès. Tu peux désirer de Dieu un mari beau, un mari grand de taille, un mari court, un mari riche, un mari... Mais le plus important, c'est de comprendre que généralement, quand Dieu veut te bénir, il ne fait pas venir la chose en l'état où tu le demandes. Il fait venir la chose dans la sémence de l'état que tu demandes, afin que tu puisses mettre la sémence en terre, que tu puisses l'entretenir, et que cette sémence soit relâchée, et qu'au travers de la croissance, que tu puisses... My God! Alléluia. Souvent, on voit un homme très riche, et un jeune homme vient, il vient juste de terminer ses études, il est en train de louer encore un studio de 20 000. Il te demande en mariage, il dit non, je veux un homme qui roule la voiture. 10 ans plus tard, cet homme devient premier ministre. Simplement parce que tu n'as pas reconnu le premier ministre qui était encore en sémence de premier ministre. Il faut apprendre à le reconnaître. Amen. Ça, c'est important de comprendre ça. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit sous la forme d'une sémence. Et sous la forme d'une semence. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne se marient pas parce que nous sommes dans un monde matérialiste. On attend que les gens qui ont tout. Mais faites aussi très attention. Parce que si vous venez là où il y a tout, il y a de fortes chances que vous n'ayez plus de place. Donc, il faut vraiment le faire. Que des jeunes gens disent amen, amen. Alléluia. Ça y est, Dieu. Amen. Hein? Dieu peut faire de grandes choses, hein, vous comprenez? Dieu peut faire de grandes choses. Donc, il faut bâtir une alliance par amour. Il faut bâtir par amour. L'amour devrait être la condition première pour laquelle nous bâtissons une alliance. C'est véritable. Mais il peut aussi arriver des moments où l'amour donne l'impression d'être allé en balade. On a l'impression qu'on n'aime pas par impression, on n'aime pas engagement. Ce n'est pas une impression, non, comme si je sens, pasteur, je l'aime plus. Écoute, ce n'est pas une affaire, tu sens. C'est un engagement que tu as pris et tu devras tenir ton engagement. Vous comprenez ce que de quoi je parle? Non, vous savez, les hommes sont les prédateurs. Et quand un homme, par exemple, aujourd'hui rencontre une femme et qu'il a connu la femme, le lendemain, quand tu vois une autre femme passer, il dit, ah, je sens passer, c'est comme si c'est elle que j'aimais. C'est dangereux, c'est simplement la convoitise. C'est non, je vous dis les choses réelles. Vous comprenez de quoi je parle? Et vous voyez, regardez, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette parenthèse, mais ça va aider beaucoup de personnes. Dans le nouveau, dans l'ancienne alliance, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était seul. Donc l'homme a passé son temps à regarder à gauche, à droite. Il cherchait partout, il nommait les animaux, il cherchait même sa femme parmi les animaux. C'est pour ça que quand Dieu a fait sortir sa femme, il dit voici enfin. S'il a dit enfin, ça veut dire qu'il a d'abord cherché. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire qu'il a cherché et quand la femme a été créée, la première chose qui s'est passée, elle a écouté une belle parole. My goodness. Voici la femme, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Et même aujourd'hui, les femmes qui parlent en langue, dès qu'elles rencontrent un homme, elles disent, ma soeur, tu es belle. Tout de suite, ça fait quelque chose. Vous laissez la spiritualité de côté, les femmes sont sensibles à ce genre de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dis à une soeur, ne passe pas ton temps à dire, non, il m'appelle simplement, non, il n'y a rien, je l'appelle, j'écoute. Au plus tu écoutes, mieux tu sais. Écoute, il n'y a rien de commun entre toi et la lumière. Qu'est-ce que tu fais avec ton païen qui t'appelle à 2h du matin et qui te parle de ses problèmes? Il n'y a rien à faire entre vous deux, ma soeur. Il n'y a rien à faire. Amen. Sinon, en fin de compte, tu viens voir le pasteur, tu dis, pasteur, non, Dieu m'a dit, tu sais, voilà, Dieu m'a donné une révélation, il faut prier pour lui, c'est le mari de ma vie. Non, attention, fais très attention, il ne faut pas manipuler ces choses. Dis à ton frère, hey, c'est certainement pour toi qu'il a dit ça ce soir, qu'il dit ça ce matin, amen. C'est certainement pour toi qu'il parle de ça. Alléluia. Amen. Donc, il peut aussi, le premier motif, c'est l'amour. Le deuxième motif, ça pourrait être aussi par désir de protection. On est dans une alliance parce qu'on a envie d'être protégé. On a besoin d'une protection. Et vous voyez, c'est étrange. C'est étrange aujourd'hui parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, entrent dans des alliances. Regardez dans le monde dans lequel nous sommes. Que ce soit dans les stations radio, que ce soit à la banque, que ce soit dans les restaurants, dans tous les secteurs de la vie, aujourd'hui, les gens viennent vous voir, ils vous font la cour, ils vous proposent d'entrer dans des loges sataniques, maçonniques, d'entrer dans la rose-croix, la franc-maçonnerie, dans toutes ces loges. Ils vous assurent que dans cette loge-là, vous aurez la protection nécessaire pour, n'est-ce pas, réussir dans la vie. Non! Non, vous avez besoin d'une seule et véritable protection, c'est la protection de l'Éternel. Et vous voyez, la Bible dit, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Vous comprenez, vous êtes avec moi. Nous avons besoin de la protection de Dieu, et non de la protection du diable. Parce que ces sectes ne sont en fait que des choses qui, vous voyez, amènent des malheurs et des malédictions pour quiconque se met dans ces choses-là. Il faut faire très attention. C'est vrai qu'on entre aussi par alliance, par protection. Donc, on a besoin de protection. Et vous voyez, la protection aussi, c'est un exemple. Quand ton peuple est faible, un peuple faible, par exemple, comme un peuple du tiers-monde, il est obligé de bâtir une alliance avec un peuple civilisé, une nation puissante, et il se dit, en ce moment-là, il signe des accords bilatéraux qui disent qu'au cas où, n'est-ce pas, le peuple faible est attaqué, le peuple fort viendra à son... Exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire a été attaquée. Qui est venu à son secours? Personne. Ok. Alors, maintenant. Vous comprenez de quoi je parle? Qui est venu à son secours? Ok, d'accord. L'Éternel seul est venu à son secours. Mais les accords bilatéraux n'ont pas agi. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'était une alliance humaine. Et vous voyez, et je vais dire quelque chose que j'avais pas prévu dire ce soir. Suivez-moi attentivement. J'ai fait peut-être déjà près de 15 à 16 étaient aux États-Unis, mais je n'ai jamais rencontré dans les rues des États-Unis une seule voiture française. On m'a dit que ça existe dans les ambassades de la République de France aux États-Unis, mais je n'ai jamais vu une seule voiture. Et quand je reviens en Afrique, dans toutes les rues, je vois des voitures françaises. Alors l'alliance que nous avons bâtie avec la France donne le libre cours à la France de faire de l'Afrique un dépotoir de ces objets qui ne marchent pas ailleurs. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est le type d'alliance que nous avons. Et vous devez comprendre qu'une alliance est dangereuse. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et interrompre une alliance, même si elle était fausse. Parce que une alliance qui est interrompue, ça crée inévitablement des problèmes. Vous comprenez de quoi je parle? Mais une alliance peut être ratifiée. On peut la changer, on peut l'améliorer. Mais ça demande beaucoup de sagesse pour améliorer une alliance qui a déjà été bâtie. Donc, avant de bâtir une alliance, il faut faire très, très, très attention. Pour ceux, il faut faire très attention. Donc, voilà, nous continuons. Pour ceux qui sont de l'autre côté, vous ne voyez pas l'écran géant, tout de suite, ce sera réparé au nom de Jésus. Le plus important, c'est de suivre d'abord le message. Nous continuons maintenant et le troisième motif, ça peut être pour des buts commerciaux, des buts d'affaires. On peut bâtir une alliance parce qu'on veut faire des affaires avec quelqu'un ou avec un pays, une nation. On peut bâtir des alliances pour des buts commerciaux ou pour des buts d'affaires. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, les alliances sont bâties. Mais maintenant, je vais dire quelque chose de très fort. Suivez-moi bien. On ne peut jamais réussir dans la vie sans avoir contracté une alliance. Je reprends. Tu ne peux pas réussir dans cette vie, sur cette terre, sans avoir contracté une alliance. Donc, il est important de contracter une alliance. Et vous, je parle aux hommes d'affaires, souvent je dis, à un certain niveau d'affaires, à un certain niveau de bénédiction, si tu ne fais pas alliance avec Dieu, soit la bénédiction te lâche, et parce que le diable, la puissance de maman t'attaque, pour te tenter à faire alliance avec le diable. Tous les hommes que vous voyez monter jusqu'à un certain niveau de la vie, où ils sont très élevés, ont bâti soit l'alliance avec Dieu, soit l'alliance avec le diable. Maintenant, le danger, c'est que quand tu bâtis une alliance avec Satan, l'alliance avec Satan peut te donner d'avoir accès à des promesses sur la terre, mais ça te donne l'assurance de perdre l'éternité. La Bible dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Donc, il est important de privilégier le salut de son âme avant toute autre chose. Donc, la première richesse que j'ai, c'est l'assurance que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et que si maintenant, d'aventure, quelqu'un tirait une balle sur moi et que mon heure était arrivée, quand je tomberai juste au ciel, une fête sera déclenchée. Bienvenue dans les cieux, le révérend Raoul. Faux nom, il m'appelle plus révérend au ciel. Raoul, mon fils. Parce qu'il n'y a pas de titre au ciel. Bienvenue dans ta gloire. Avec les couronnes qui m'attendent. Et ma maison qui a été encore en travaux jusqu'alors, je vous parle. Modification de mes chambres. Tellement Dieu veut me réserver quelque chose d'exceptionnel dans les cieux. Alléluia! Amen. Tout ce qu'on a sur la terre, écoutez mes frères, sont nécessaires, mais pas indispensables. Nous avons besoin de ces choses, elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas indispensables. Je vais attaquer maintenant ces personnes qui disent, non, je suis sauvé, j'ai une alliance avec Dieu, ça me suffit. Non, l'alliance avec Dieu t'assure ton salut et l'héritage de tes promesses sur la terre. Donc, tu es sauvé numéro un, mais numéro deux, Dieu t'assure la protection, Dieu t'assure la délivrance, Dieu t'assure la restauration, Dieu t'assure la prospérité, il t'assure la santé en toute épreuve. Est-ce que ça va? Donc c'est important. Et vous voyez, des personnes aujourd'hui vont dans des dérives incroyables. Cherchent des délivrances là où ça ne se trouve pas. J'ai dit, pas l'enseignement de ce message. Écoutez-moi bien, j'ai dit, les gens seront hyper délivrés. Il y a des personnes à qui on doit de l'argent, on viendra cogner à ta porte pour te rembourser. J'ai dit, on viendra cogner à ta porte pour te rembourser. Parce que Dieu a décidé ta restauration. Vous savez, beaucoup de personnes ont accepté le Seigneur, mais n'ont pas compris quelle était l'implication de cette acceptation du Seigneur. La Bible dit, quand tu acceptes le Seigneur, tout ce qui est à Dieu est à toi. Et tout ce qui est à toi, tout ce qui est à toi, maintenant, est-ce que Dieu vous a déjà donné tout ce qu'il a? Parfaitement, il a déjà donné, puisque Jésus a dit tout est accompli. Mais maintenant, il faut se poser une question. Est-ce que j'ai déjà donné tout ce que j'ai à Dieu? Est-ce que j'ai donné tout ce que j'ai à Dieu? Parce que c'est la réciprocité dans l'alliance. Vous comprenez? Si Dieu t'a tout donné, tu dois tout lui donner. Donc, je suis surpris quand à l'église, les gens s'attardent sur la notion de la dîme. Oh, paye tes 10%, sinon le diable va te tuer. Il ne va pas te tuer. Tu vas vivre dans la misère. Vous comprenez de quoi je parle? Et si tu vas donner ta dîme parce que tu as peur que Satan te tue, ça ne va pas t'apporter la plénitude de la bénédiction. Et je vais aller plus loin. Quelqu'un qui touche 100 000 francs et qui donne 10 000 francs à Dieu à la fin du mois a donné le dixième de ce qu'il a. Et les 90% appartiennent à qui? À toi? Selon l'enseignement qu'on vient de voir, tout ce qui est à toi est à Dieu et tout ce qui est à Dieu est à toi. Donc tu ne peux pas dire j'ai donné les 10%, maintenant les 90% j'en fais ce que je veux. Non, parce que vous étiez une alliance avec Dieu. Tout ce qui est à toi est à Dieu. Maintenant, je vous dis une chose que je fais. Moi, je n'ai rien qui m'appartienne. Tout ce que j'ai jusqu'à mon slip, jusqu'à mes chaussures appartiennent à Dieu. Je ne suis qu'un intendant. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Car la Bible dit, la terre et tout ce qu'elle renferme, Psaume 24, verset 1, appartient à Dieu. Maintenant, est-ce que ton compte bancaire fait partie de la terre? Non? Est-ce que ton compte bancaire fait partie de ce que la terre renferme? Et pourquoi est-ce que tu prétends que c'est à toi? Tu es simplement un intendant à qui Dieu a donné certaines choses pour un peu de temps. Qui devrait avoir le courage et l'audace de redonner à Dieu quand il en a besoin. Maintenant, Dieu n'a pas simplement besoin de ton argent pour l'église. Dieu peut avoir besoin de ton argent pour ta propre maison, pour que tu vives proprement chez toi. Il y a des gens qui ont l'argent, ils sont sales, misère. Non,
Il faut vivre clairement, proprement. Que ta maison soit propre, mange bien, nourris-toi bien. Vous comprenez de quoi je parle? Parce que même ton corps ne t'appartient pas. La Bible dit, si tu le détruis, Dieu te détruira. Dans l'alliance que nous avons avec Dieu, tout ce qui est à nous est à Dieu. Si vous avez compris la relation que vous avez avec Dieu de cette façon, alors vous n'allez plus être captif de la religion. Parce que vous allez, les gens vont vous donner offrande de percée, offrande d'élévation, offrande de restauration, offrande de cupidité, offrande de ci, offrande de prophète, offrande de... Non. Offrande de Jézabel, offrande de... Non, tout ça, c'est fatigant. On est fatigant. Vous comprenez de quoi je parle? C'est un peu fatigant. Pour que tout ce qui est le plus important, c'est d'apprendre à s'aimer pour l'avancement du royaume de Dieu. Parce que le premier homme qui a été créé, il a été créé, Dieu lui a dit « sème ». Dieu ne lui a pas dit « dîme ». Et si Dieu m'a restauré, alors je suis en sèmeur et non en dîmeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis Dieu avec moi, dis à ton voisin à côté, « ah, ça c'est plus fort ». Amen. Et vous voyez, c'est pour ça aujourd'hui à l'église, il n'y a pas d'amour. On dit « aime ton prochain comme toi-même », c'est ce que la Bible dit. « Aime ton prochain comme toi-même ». Ok, et puis aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui vous démontre que vous êtes vraiment dans une alliance avec Dieu. Numéro 1, tout ce que vous faites devra vous amener à aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toutes vos pensées. Tout ce que vous faites. Si vous faites quelque chose qui vous empêche d'aimer Dieu, alors vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Numéro 2, tout ce que vous faites devra vous amener à aimer vos prochains comme vous-même. Si vous faites quelque chose qui vous éloigne de l'amour de votre prochain, alors là, vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne demanderas pas à ton prochain de te corrompre pour que tu lui rendes un service. Tu feras à ton prochain ce que tu aurais aimé qu'on te fasse. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas murmurer à l'égard de ton prochain, parce que toi-même, tu n'aimerais pas qu'on murmure à ton égard. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas user de cupidité en affaire avec ton prochain. Plus grave, j'ai vu même à l'église des chrétiens cupides qui viennent acheter quelque chose à 1 000 francs qui revendent à leur propre frère en Christ à 100 000. C'est pas bon. La Bible interdit de tels comportements. Chaque fois que tu poses un acte vis-à-vis de ton frère, demande-toi qu'est-ce que j'aurais ressenti si on m'avait posé le même acte. Et je vais vous dire, c'est la clé de la bénédiction dans le Seigneur. L'amour du Seigneur et l'amour de son prochain. Aime ton frère. C'est important. Nous sommes dans une alliance d'amour. Maintenant, je disais qu'il est important de comprendre que nous ne pouvons pas réussir dans la vie sans avoir contracté des alliances. Je vais donner maintenant ce qui suit, 8 points. 8 points, n'est-ce pas, qui matérialisent une alliance. Et je ne vais pas parler sur ces points de l'alliance que nous avons avec Dieu, mais d'une alliance en général. Et vous allez vous rendre compte au travers de cet enseignement que d'une façon ou d'une autre, chacun d'entre nous, quelque part, a contracté une alliance qui n'était pas volontaire, a contracté une alliance inconsciente. Et vous savez, si vous êtes entré dans une alliance, que vous l'avez contractée, vous pouvez la nientir par une alliance supérieure. Si vous avez une alliance supérieure, elle peut ébranler l'alliance que vous avez contractée de par le passé. Donc, je vais vous donner 8 points importants qui vont amener chacun d'entre nous à comprendre, n'est-ce pas, et les étapes qu'il faut suivre pour établir une alliance. Qui a envie de le savoir? Alléluia. Vous savez, cet enseignement est révolutionnaire parce qu'il vous apporte une délivrance totale et radicale. Une véritable délivrance. Une véritable délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Et celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Alléluia. 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 Il est véritablement libre. Dieu n'affranchit pas à moitié, mais totalement. Totalement libre. Premier point, ou première étape, pour, n'est-ce pas, à suivre pour établir une alliance. La saignée ou la coulée de sang. La saignée ou la coulée de sang. Ou alors, vous voulez, je peux simplement dire l'effusion de sang. Vous voyez, l'effusion de sang est obligatoire pour que l'alliance ait lieu. Pour qu'une alliance de sang ait lieu, en premier lieu, il faudrait qu'il y ait eu une effusion de sang. C'est une étape incontournable pour qu'une alliance de sang soit bâtie. Maintenant, suivez-moi bien, le diable est le spécialiste de la contrefaçon. Ça veut dire que l'alliance de sang n'existe pas simplement dans le royaume des cieux, Mais l'alliance de sang existe aussi dans le royaume des ténèbres. Parce que toute vérité divine est parallèle. Chaque fois que vous découvrez une vérité en Dieu, il existe une contrefaçon en Satan. Donc moi, je viens parler de la vérité divine. Mais aussi, comprenez-moi maintenant. Vous voyez, quand vous, par exemple, vous arrivez chez un féticheur, ou chez un marabout, ou chez un commis, ou alors, je ne sais pas qui d'autre, et qui vous demande un animal, il vous dit, apportez un animal. Vous prenez l'animal, et qu'il tue l'animal, par le sang qui se verse, même de façon inconsciente, vous acceptez de bâtir une alliance avec les puissances du mal que le commis ou le féticheur va invoquer sur votre destinée. Quand vous avez un problème, votre enfant ne réussit pas à l'école, on dit, oh oui, amenez-le, amène un poulet blanc, amène un coq blanc, amène ci. Mais c'est simplement pour qu'une alliance soit bâtie entre la puissance des ténèbres et toi. Et souvent, on s'étonne pourquoi on est dans la vie, on ne réussit pas. Tout ce qu'on entreprend échoue. Il y a une alliance qui a été tissée en ton nom. Quand tu étais là, on t'a amené, on a fait des choses sur toi. Cette alliance-là, si elle subsiste, elle va influencer ta vie. De façon négative, elle va influencer ta destinée. Et il faut absolument qu'une telle alliance soit détruite et dénoncée au nom puissant de Jésus-Christ. Et personne d'autre à votre place ne peut dénoncer et détruire une alliance. Vous devez vous-même la dénoncer pour que Dieu la détruise. Si vous ne dénoncez pas cette alliance, même si vous acceptez Jésus dans votre vie, les esprits méchants que vous avez, n'est-ce pas, accepté et invoqué volontairement, ne vont continuer à influencer votre vie jusqu'à ce que vous annoncez la fin de l'alliance, que vous la détrônez totalement, et alors en ce moment, vous êtes libéré et affranchi, vous entrez dans la plénitude de votre relation avec le Seigneur. Vous savez, je suis plus jeune, quand on m'a conduit chez un féticheur. Et donc, on avait vu que j'avais 4 yeux, c'est-à-dire quelqu'un qui avait la capacité de voir des choses dans le surnaturel. Bon, je dis aussi que les féticheurs ne disent pas toujours le mensonge. Mais ils ne disent pas la vérité dans le but de la vérité, mais dans le but du mensonge. C'est-à-dire, même quand ils te disent en fait vrai, c'est pour te conduire à l'égarement. Donc, ils avaient décelé qu'il y avait des aptitudes en moi que d'autres enfants de mon âge n'avaient pas. Alors, on m'a pris et on m'a amené chez un marabout. Et dans ce marabout, qu'est-ce qu'il a fait au bon marabout féticheur, en fait, en entendant par là? Donc, on m'a amené chez ce féticheur. Et qu'est-ce que le féticheur a pris? Il m'a amené et il m'a fait des entailles qui subsistent encore physiquement sur mon corps, mais qui sont spirituellement déjà détruites. Donc, il y a eu des entailles qui ont été faites. Et on a fait des entailles jusque dans ma tête et sous la plante de mes pieds. Et quand il taillait sur ma tête, il disait qu'il me protège contre le tonnerre. Quand il taillait sur le bas des pieds, il me protège contre les accidents. Quand il taillait derrière sur les fesses, il me protège contre si il est vraiment, on m'a taillardé. Et plus grave, sérieux, et plus grave encore, vous voyez, le diable est un menteur. Le diable aime se moquer de nous. Vous comprenez? Et plus grave encore, mon frère, ce qui s'est passé, c'est que il a été assez intelligent pour me demander de ne pas me laver pendant 7 jours. Et il m'a oint d'une substance nauséabonde. Donc quand je me levais le matin, je puais. Mais dans ma tête, bon, comme je pue, c'est puissant. Ça veut dire que la puissance de Dieu est forte. Vous comprenez? Et vous voyez, et il y a beaucoup de personnes comme ça parmi nous qui ont des entailles dans le corps. Et quand vous voyez, vous arrivez, il fait des incantations, shilibika, hokolibishi, tilibiko, il dit des choses, il parle, il jette la bougie, il fait de l'encens, il balance de l'eau par terre, il fait trop de... Et puis tu es là, vous comprenez de quoi je parle. Tu te dis, tu vas chercher la puissance. Mais vous voyez, et moi, j'ai accepté cette alliance, les entailles m'ont été faites. Vous voyez, et vous devez comprendre quelque chose d'autre. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes dans cette salle, vous devez être affranchi d'une alliance que vous avez faite, et que vous n'avez même pas reconnu comme étant une alliance satanique, le jour où on vous a déviergé. Parce que le jour où on vous a dépucelé, votre sang a coulé. Vous avez battu une alliance avec le premier garçon que vous avez connu. Est-ce que vous me comprenez? Parce que l'hymen est mise là, simplement, pour votre mari. Comme ça, quand il vous découvrira, le sang va être versé pour bâtir une alliance de sang entre toi et lui. Donc maintenant, si tu t'es laissé dépuceler par un homme, qu'est-ce qui se passe par la suite? Tu as bâti une alliance inconsciente avec cet homme. Et si tu ne fais pas attention, si ta consécration n'est pas réelle et ton engagement à Dieu n'est pas vrai, tu auras toujours une vie à dents de scie.
tu ne vas pas connaître une véritable stabilité. Et même dans ton propre ménage, ton mari aura tendance à ne pas vouloir rester avec toi. Il aura tendance à se sentir attiré par d'autres femmes. Simplement pourquoi? Parce que tu es marié avec lui, mais en fait tu es dans une relation de polyandrie, parce que tu étais déjà marié avant avec quelqu'un d'autre, inconsciemment.
Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que je dis est extrêmement grave. Vous voyez, on doit prendre conscience de cette chose. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous imaginez que le sexe est la chose qui détruit le plus cette génération? Pourquoi? Parce que le diable sait que chaque fois que tu as un rapport sexuel avec quelqu'un, vous avez ce qu'on appelle, vous vous mettez ensemble, vous devenez une seule chair avec la personne, et par conséquent, si la personne est remplie de démons, les démons de la personne te sont communiqués. Et même je connais des gens qui font des sectes. Enfin, c'était à l'époque au Cameroun. Dès qu'ils veulent, ils veulent la puissance, ils couchent avec une femme, 6 mois après, la femme meurt. Et dans leur secte, on appelait vivre heureux et mourir jeune. Mais ils prenaient leur puissance sur le sexe opposé. Il y a des femmes, vous voyez, elles rayonnent dans la vie. Elles sont toutes belles. Et puis, en certain moment, paf, elles fanent. Tout de suite. On ne comprend pas ce qui s'est passé. On dit, elle était pourtant belle. Non. Dieu n'est pas celui qui détruit la beauté. Elle est entrée dans une alliance inconsciente et sa beauté lui a vie, la vie lui a été ôtée par la puissance des ténèbres. Sinon, que direz-vous de Sarah qui était belle à 90 ans? Jusqu'à ce qu'on ait allé la désirer. On, au roi, voulait épouser une femme de 90 ans. Ma sœur, je suis persuadé que jusqu'à l'âge de 50 ans, tu peux être toujours belle, toujours rayonnante, toujours gracieuse, toujours attirante, toujours séduisante pour les intérêts de Dieu. Le contraire, c'est le diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ce sont des alliances inconscientes. Et même, je vais plus loin encore. Les femmes qui la nuit dorment, et dans la nuit, vous avez des hommes qui viennent coucher avec vous. Vous dites, on appelle communément le mari de nuit. Mais vous savez, le monde spirituel est un monde d'esprit. Ça veut dire que si un esprit agit dans ta vie, en tant qu'esprit, ce qu'il a déposé dans le monde spirituel devient une vérité. Voilà, ou bien une réalité qui a été accomplie dans le surnaturel. Donc quand cet homme arrive, généralement, les femmes qui ont ce genre de rêve, quand elles se lèvent la nuit, elles sont trempées. Comme si effectivement, elles avaient une relation sexuelle. Mais je suis de ceux qui croient que les démons n'ont pas de chair. Les démons ne prennent pas encore. Mais il peut arriver qu'un homme devient un démon ambulant parce que sa vie est totalement remplie de la puissance des démons. Donc là, il devient vraiment comme un démon en chair. Ça veut dire qu'il a sacrifié son âme et sa volonté pour servir le diable. Et vous, souvent, vous êtes assis dans les taxis, il y a des démons à côté de vous. Des hommes remplis de la fureur et du fiel de Satan qui sont là tout autour. Il faut faire très attention. Okay. Donc, la nuit, quand tu as ce type de rapport avec cet esprit méchant qui vient et qui continue d'avoir ses rapports avec toi, tu vas à l'église, tu chantes, mais il faut comprendre quelque chose. Dans le surnaturel, tu es déjà marié. C'est pour ça qu'on l'appelle le mari de la nuit. Et dans le naturel, il devient impossible pour toi de rencontrer un homme qui t'épouse. Chaque fois qu'un homme vient, il veut te demander un mariage. À la dernière minute, il y a quelque chose qui dérobe. Le projet échoue. Il faut t'arrêter pour examiner. Vous voyez donc, et là, tu as tout ce qu'il faut. Les gens te trouvent belle. Les gens te trouvent, mais personne ne veut s'engager véritablement dans une relation avec toi. Il faut t'arrêter quelque part. Il est probable qu'il y ait une alliance qui a été contractée, donc il faut dénoncer. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de polyandrie. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc si tu es déjà avec quelqu'un, il n'y a plus de besoin pour toi d'avoir un autre. Même si c'est quelqu'un est un esprit. Dis à ton voisin, ça devient fort. Dis à ton voisin, c'est fort. Numéro 2. L'échange de vêtements. On a dit numéro 1, saigner ou couler de sang. Numéro 2, échange de vêtements. Nous voulons le voir, pour le voir à 1 Samuel 18, verset 3 à 4. Vous voyez, David et Jonathan ont échangé les vêtements quand ils ont fait une alliance. David avait aimé David a aimé Jonathan comme son propre âme. Et puis il a échangé ses vêtements avec Jonathan. 1 Samuel 18, verset 3 à 4. Et donc faites attention. Le vêtement ici souvent est symbole d'identité. Donc mon vêtement peut révéler mon identité. C'est pour ça souvent quand il m'arrive de prier pour les malades, à des moments précis pour ceux qui m'ont accompagné, Dieu m'a donné l'instruction d'enlever mon vêtement et de mettre ça sur certaines personnes qui ont été guéries. Ok, mais c'est une instruction prophétique. Ne veut pas dire que tout le temps on devra agir comme ça. Ou quand on consacre un pasteur, on met la veste sur le pasteur pour laisser son onction sur la vie de la personne. Donc ça veut dire aussi, c'est un transfert de grâce qui descend pour affecter la vie de la personne. Est-ce que ça va? Maintenant, vous me comprenez attentivement? Super. Alors maintenant, je voudrais continuer en disant ceci. Donc, il faut faire très attention. Souvent aussi, vous allez vous rendre compte que les habits sont les choses que les féticheurs, les marabouts, les comiens demandent. Quand tu vas aller voir, prends, on te demande, apporte ton habit. Apporte l'habit de l'homme que tu veux qu'on envoûte. Ou bien prends une partie de son pantalon. Ou bien prends son sous-vêtement. Ou bien prends son soutien. Et apporte-le. Pourquoi? Parce qu'en apportant l'habit à cet endroit, l'habit va servir, n'est-ce pas, d'élément pour qu'une alliance satanique soit bâtie entre la personne et les forces des ténèbres. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça même que même en termes de vêtements, quand vous payez la friperie ou des habits qui ont déjà été portés, il faut sanctifier. Il ne faut jamais porter un habit que vous avez acheté sans l'avoir sanctifié. Il y a des habits, véritablement, qui sont faits avec un esprit de séduction. Il y a même des sous-vêtements des dames qu'on appelle séduction. Tu portes ça, il y a un autre qu'on appelle frivolité. Il y a un autre qu'on appelle infidèle. C'est des habits de sous-vêtements de femmes. On appelle frivolité, infidélité. Donc, c'est des habits qui sont consacrés aux puissances occultes. Et quand tu les portes, automatiquement, tu commences à avoir des attitudes d'une femme infidèle. Vois, tu as toujours aimé ton mari, mais un jour tu le portes et tu commences à avoir les attitudes d'être infidèle. Vous comprenez? Non. Parce que... Amen. Parce que tu as porté un habit qu'on appelle frivolité ou infidélité. Donc, il faut faire très attention. Ce sont des choses qui sont nocives, qui sont néfastes. Ok, il faut faire très, très, très attention. Donc, l'échange de vêtements, c'est, il faut faire attention. C'est le deuxième point. Numéro 3, il y a aussi l'échange de noms. L'échange de noms. Vous voyez, quand il y a une alliance, la partie la plus faible prend le nom de la partie la plus forte. C'est pour ça que quand une femme se marie, elle devient madame. Donc, elle porte le nom de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une alliance avec son mari, donc elle devra porter le nom de son mari, qui symbolise la personne la plus forte. Elle devient madame un tel, simplement parce que elle porte le nom de son mari. Donc, faites attention. Il y a des gens qui portent des noms que les féticheurs leur ont donnés. Vous voyez, et ça, dans tous les pays, ça existe. Et au Cameroun, ça existe, je ne sais pas si ça existe ici. Ça existe en Guinée, ça existe au Gabon, ça existe en Sierra Leone, au Liberia, ça existe au Ghana, ça existe, je ne sais pas si ça existe ici. Mais il y a des personnes qui ont des noms qu'on leur a donnés dans les fétiches. Vous entendez par exemple quelqu'un qui s'appelle Allah. Parce que simplement, hein, vous voyez, le Dieu de l'arbre lui a donné ce nom. Ou quelqu'un qui s'appelle Wallah. Quand on a la femme à chercher l'enfant, elle n'avait pas d'enfant, elle est allée invoquer les arbres. Et quand elle a eu l'enfant, on dit qu'il faut l'appeler Wallah. Donc cet enfant est consacré à un arbre. En fait, le nom qu'il porte symbolise une alliance qu'il a faite avec les dieux des arbres. Ou alors quelqu'un qui s'appelle Yoboué, qui porte un nom qui veut dire simplement qui se rattache à une alliance qui a été faite avec les cailloux, les dieux des cailloux. Vous voyez ça? Il y a des noms qu'on porte qui ont une influence sur notre destinée parce qu'ils représentent une alliance. Donc, il faut souvent aussi, quand on est né de nouveau, dénoncer ces noms. Il faut dénoncer ces noms. Il faut même refuser d'être appelé un tel. Et changer de nom prophétiquement et vous donner une nouvelle identité. C'est pour ça que Dieu a changé le nom des personnes avec lesquelles il voulait travailler. Ok, vous comprenez de quoi je parle. Il faut changer de nom. Parce que le nom peut-être qu'on t'a donné est un nom qui se rattache, n'est-ce pas, à une œuvre d'alliance avec les puissances occultes. Il y a d'autres personnes, après plusieurs décès dans la famille, on commence à l'appeler Kanga, simplement parce que on s'est dit en l'appelant Kanga, on lui donne un nom qui l'éloigne des esprits méchants. Mais c'est un nom maléfique. Un nom qui fait de toi quelqu'un qui ne sera jamais quelqu'un de véritablement prospère. Même si tu réussis à l'école, même si tu réussis en position sociale, tu n'auras pas une véritable stabilité parce que tu as porté un nom qui vient d'une alliance. Il faut faire attention. Ok, donc, il est important de changer souvent de nom et se donner un nouveau nom. Que Dieu n'est pas selon la parole de Dieu, un nom qui affectera positivement notre destinée. Dieu l'a fait avec Pierre, il a changé de nom, n'est-ce pas? Il a donné un nom au nouveau Pierre. Il a fait avec qui encore? Abraham, il a fait avec Jacob, en donnant le nom d'Israël à Jacob. Donc Dieu, plusieurs fois dans l'alliance avec ses serviteurs, a dû changer de nom. Parce que Jacob voulait dire celui qui trompe, celui qui passe son temps à décevoir. Et puis Dieu lui a donné un autre nom, Israël. Et ça a changé la destinée de cet homme. Donc, ce n'est pas grave si nous avons eu des noms qui ont été démoniatisés. Non, il faut maintenant, n'est-ce pas, diviniser vos noms.
Il faut changer, n'est-ce pas, totalement vos noms par la puissance de Dieu et vous amener maintenant à une autre dimension de votre alliance avec Dieu. Maintenant, levez la main si vous voulez aller loin avec le Seigneur. Levez la main si vous voulez aller loin avec le Seigneur. Levez la main si vous êtes des personnes qui sont prêtes à recevoir de Dieu de plus grandes promesses. Dieu te voit là où tu es, c'est fantastique. Dieu te voit là où tu es et il accomplira ses merveilles au travers de ta vie. Tu peux baisser ta main maintenant. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse là où tu es et que tu sois abondamment béni. Maintenant, le quatrième point, c'est la division d'un animal ou de plusieurs animaux. Généralement, cette étape aussi est respectée. Un animal est coupé en deux, ok, on coupe l'animal en deux. Pendant le rite, on divise l'animal en deux. Et c'est un point important pour l'alliance de sang. On le voit dans Genèse 15, Genèse 15, verset 9 à 21, dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, les animaux ont été divisés en deux. Les oiseaux de proie sont descendus et Abraham les a chassés. Donc on a ce qu'on appelle la division des animaux. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est le quatrième point. Le quatrième point. Maintenant, nous avançons. Nous allons au cinquième point. Alors, je vais m'arrêter un tout petit peu. C'est l'érection d'un monument commémoratif. L'érection d'un monument commémoratif. Quand vous faites une alliance, et là, je vais vous dire que nous allons revenir sur les sept points, en parlant de l'alliance qu'on a avec Dieu, et vous allez vous rendre compte comment dans l'alliance que Dieu a faite avec nous, il a respecté les huit étapes de l'alliance. Ok? L'érection du monument commémoratif. Il y a un monument qu'on doit ériger pour commémorer, n'est-ce pas, l'alliance qu'on a faite. Quand vous faites alliance avec le diable, il vous donne quelque chose que vous mettez quelque part qui symbolise, n'est-ce pas, qui commémore ce que vous avez fait avec lui. C'est pour ça, par exemple, que dans les quartiers, où il y a des grands sorciers, il y a souvent des grands arbres qui vivent longtemps. Et même quand on va vous dire dans cette arbre-là, c'est là où tous les sorciers habitent. Vous avez déjà entendu parler des choses pareilles? Vous avez entendu parler des choses pareilles? On dit c'est là où les sorciers habitent. Ou alors il y a des gens qui ont des plantes dans leur maison qui sont des plantes sataniques. Quand vous venez prendre une maison, la consécration d'une maison, c'est annuler l'impact de tous ces monuments qui ont été transmis dans la maison avant que vous n'arriviez. Si quelqu'un a une maison hantée, une belle et grande maison que personne n'habite, appelez-moi. Nous allons déménager les bureaux pour aller là-bas. Parce que quand j'arrive quelque part, la maison qui hantait est libérée par la puissance de Dieu. Notre Dieu au-dessus de tout. Amen. Donc la maison est hantée, simplement parce qu'il y a une alliance qui a été bâtie dans cette maison avec le diable. Et quand le diable voit cette chose, ce monument, il a le droit d'entrer et de sortir dans cette maison-là. Donc je prie que dans vos maisons, il n'y ait plus de canaris en tant que chrétien. On a des chrétiens qui ont des canaris sous le lit. Oh, que Dieu te pardonne, mon frère et ma sœur. Le canari sur ton lit, oh, ça attire les mauvais esprits. Tu ne peux pas jouir de la plénitude de Dieu dans ta maison s'il y a un canari sous ton lit. Tu vas dire, c'est la tradition, mais je vais vous dire, à 75%, les pratiques traditionnelles sont contrôlées par la puissance de Satan. Pas toutes les traditions. Et il y en a de très bonnes. Celles qui vous amènent à respecter vos aînés. Celles qui vous amènent à honorer votre père. Nous ne sommes plus comme ces personnes-là qui, n'est-ce pas, s'élèvent à 14 ans pour dire à mon père, à son père, fous-moi le camp. Non, ça vraiment, c'est incroyable. Nos traditions nous enseignent de meilleures choses. Mais il faut faire attention. Derrière certaines choses, il y a des pièges de Satan qui nous maintiennent captifs. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes dans la pauvreté en Afrique. Trop de mauvaises alliances qui ont été bâties. Trop de mauvaises alliances qui ont été contractées. Il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer totalement. Et vous voyez, et là, quand vous les dénoncez, vous recommencez un travail qui est de régénération totale de votre atmosphère pour entrer en possession de votre bénédiction. Il existe aussi des rochers consacrés. Qui a déjà entendu parler des rochers saints consacrés? À Dieu, des rochers, il y a des endroits où il y a des rochers que les gens ne doivent pas toucher. Les rochers consacrés à Dieu, on dit il y a des dieux dans ces rochers. Qui a déjà entendu parler des forêts sacrées? Ok. Ce sont des endroits, effectivement, qui sont consacrés, mais pas consacrés à Dieu. Mot puissance occulte. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et même, vous voyez l'alliance que les mariés portent. L'alliance que le marié porte est simplement un monument qu'il met sur sa main, qui lui rappelle son engagement de mariage qu'il a pris avec quelqu'un d'autre. Amen. Donc, c'est très, très important de le comprendre. Donc, vous voyez, c'est un monument commémoratif. J'avance. Et maintenant, numéro 6. Oh my God, que c'est important. Et là, il y a la prononciation des bénédictions ou des malédictions. Vous êtes encore avec moi? Est-ce que vous suivez encore l'enseignement? Et il y a la prononciation des bénédictions et des malédictions. Donc, quand vous faites une alliance, à un moment, les deux parties prononce des bénédictions et des malédictions. Les bénédictions pour celui qui obéit et des malédictions pour celui qui... Vous voyez dans l'Ancien Testament comment est-ce qu'on lisait la Bible? À haute voix. Qu'est-ce qu'on lisait dans la Bible? La loi. Et qu'est-ce que la loi enseigne? Les bénédictions et les malédictions. Si tu fais ça, tu seras béni. Si tu fais ça, tu seras maudit. Donc en fait, c'était les prononciations des bénédictions et des malédictions de l'alliance abrahamique. Ok, accompli, n'est-ce pas, dans l'ancienne alliance. Est-ce que ça va? Maintenant, tu vas me dire, je n'ai pas prononcé des bénédictions, ni on n'a pas eu de prononciation avec le marabout. Mais quand le marabout parle, il fait chéder. Oh, ça va. Tout ce qu'il dit, comme incantation. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Mais est-ce que les démons ont compris? Oui, les démons ont compris. Quand tu parles en langue, est-ce que tu comprends? Est-ce que Dieu comprend? Il comprend, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu n'as pas compris ce que le marabout a dit que ce n'est pas valable. Même si tu n'as pas compris, c'est valable. Quand il parle, quand tu es venu le jour là, et que tu as pris ton poulet, que tu as présenté en l'air, il dit, ok, Satan, en parlant dans ses langues, donne-lui d'avoir de l'argent, mais chaque fois qu'il touche l'argent, il faut qu'il tombe malade, il faut qu'une personne meure chaque 5 ans dans sa famille. Et quand il termine, tu prends le truc, tu essuies sur ton front, tu rentres chez toi, tu acceptes ce qu'il a dit. Et chaque 5 ans, ou chaque 2 ans, ou chaque année, selon ce qui a été dit, quelqu'un meurt. Tu dis, pasteur, prie pour moi, il faut chercher quelque part aussi. Il peut avoir une alliance qui a été contractée. Ok? Maintenant, numéro 7. Il y a le partage d'un repas d'alliance. Après que l'alliance, n'est-ce pas, est faite, il y a le partage d'un repas. Donc, nous allons revenir sur le cas de Jésus qui a partagé un repas d'alliance avec nous, n'est-ce pas? Qu'on appelle le repas la Sainte Cène. Mais nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui. Le repas, n'est-ce pas, vient sceller, n'est-ce pas, l'alliance. Vous êtes déjà rendu compte combien est-ce que les gens dans le mariage, le gâteau est important? Vous avez rendu compte? Simplement parce que le gâteau sert de repas d'alliance. À la fin, on prend ce repas qu'on partage avec des gens pour sceller l'alliance qui a été faite. On partage un repas. Dans le 7e point, le partage d'un repas. Et numéro 8, pour terminer, nous avons ce qu'on appelle échange d'armes. Ça, c'est un point formidable. L'échange d'armes. Ça veut dire que vous échangez les armes. Maintenant, ma force devient la tienne et ta force devient la mienne. Vous voyez souvent quand vous allez chez des féticheurs ou alors faire une alliance, souvent on vous donne un objet. Souvent on vous donne un objet que vous tenez en main. Et puis cet objet symbolise une puissance. Vous avez déjà vu les chefs traditionnels? Vous connaissez les bâtons qu'ils ont? En fait, c'est un bâton qu'on te donne qui veut simplement dire toutes les armes de la tradition, toutes les armes de les esprits qui règnent et qui gouvernent ce village sont avec toi et t'accompagnent dans ton mandat. Parce que donc c'est une alliance. Après avoir été initié, on te donne, n'est-ce pas, il y a échange d'armes. Et vous voyez souvent, suivez-moi bien, l'arme peut être simplement une bague qu'on t'a donnée ou un fil que tu attaches sur toi. On te dit, porte-le, ou bien des coris que tu mets autour de tes fesses, de tes reins. Ok? Donc tu les prends, ou bien quelque chose qu'une bague que tu mets sur ton doigt. Qui a déjà vu des gens porter des choses pareilles? Ou un bracelet, qui symbolise la puissance des ténèbres qui t'accompagne. Mais le diable est un menteur, parce que véritablement, je vais vous dire une chose, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et bien, je vais encore aller plus loin. Écoutez-moi. La véritable protection, nous l'avons dans le Seigneur. Amen. Aucun sorcier, aucun féticheur, aucun démon ne peut attenter à ma vie et réussir. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et quelle que soit l'alliance que tu as contractée, parmi les 8 points, ce soir, par la puissance de Dieu, maintenant, là où tu es, l'onction de Dieu va déraciner cette alliance. Et tu vas bâtir une nouvelle alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Une alliance véritable. Car la Bible déclare, le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais, oh my God, mais Jésus est venu afin que Raoul ait la vie. Afin que Raoul, la brebis de Dieu, ait la vie. Et qu'il ait la vie en abondance. Afin que tu aies l'abondance de la vie. Lève ta main et dis, je crois à l'abondance. Je crois à l'abondance de la vie. Je crois à l'abondance de la vie. Je crois à l'abondance de la vie. Alléluia.
Vous avez été béni par le ministère du révérend Raoul Wafo. et vous tenez à acquérir d'autres messages soutenus par vos dons au Waffle Ministries, n'hésitez pas. Contactez-nous au 225 22 52 24 02 ou au 225 07 85 96 97. Demeurez bénis.